La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, le premier contact avec les Japonais, c'est...
C'est ça. Ça se passe sur le secteur est de l'île de Hong Kong. Ça se trouve être un territoire là, qui est défendu par la compagnie C, les Royal Rifles of Canada. Et puis, dans leur... Hein, une petite anecdote par rapport à ça, le premier contact. Les Royal Rifles, lors de leur séjour à Terre-Neuve, ont adopté une mascotte, un chien, qui ont donné le nom au chien de Gander. Pour des raisons évidentes, hein, il était à Gander. Donc, le Gander a fait tout le trajet avec eux. Il a traversé le Canada en train, le Pacifique en avion, etc. Puis, il se retrouve dans les positions défensives avec des gens de la compagnie C, des Royal Rifles, lorsque les Japonais arrivent sur l'île. Gander, dans le feu de l'action, le chien, devient affolé et puis commence à se diriger vers les Japonais, les mordre, etc. Et puis, à un moment donné, il y a une grenade qui se retrouve par terre et puis Gander prend la grenade dans sa gueule, la gueule de chien. Et puis, malheureusement, la grenade a explosé et Gander est décédé. De façon posthume, Gander a été décoré de la médaille Dickin, qui est un peu l'équivalent de la Croix de Victoria. La Croix de Victoria est la médaille du Commonwealth pour la plus haute décoration pour bravoure face à l'ennemi. C'est un peu l'équivalent animalier, là, si on veut. Et puis, à l'intérieur des forces des Royal Rifles, Gander, la mémoire de Gander est très, très importante. À un point tel que, lorsqu'on parle du nombre de Canadiens qui ont participé à la bataille de Hong Kong, le chiffre officiel, c'est 1975 Canadiens, mais les Royal Rifles, eux, dans leur esprit, dans leur façon de voir les choses, c'est on était en 1976. Ils considèrent Gander comme étant un des leurs. C'est quand même une petite anecdote, hein, que moi je trouve intéressant.
C'est extrêmement intéressant. Puis oui, c'était pas durant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup aussi des événements avec les...
Exactement, avec des mascottes, là.
Je sais pas si c'est un peu de superstition parce que tu veux te rattacher à quelque chose, parce que tu vas vivre de quoi que t'es pas conçu pour vivre. Oui. Fait que là, tu dis, c'est lui notre porteur.
C'est ça. Fait que c'est ça. Là l'île de Hong Kong est envahie par les Japonais. Et puis, de façon assez rapide, c'est le recul. On recule. C'est une vague là, de soldats japonais.
On parle de 10 pour 1.
C'est ça.
10 soldats japonais
pour
1 soldat.
Puis, il faut se rappeler aussi là, que nous, comme oublié de mentionner, nous, on n'a aucun support naval, on n'a aucun support aérien, on n'a aucun support d'artillerie. C'est essentiellement une unité d'infanterie laissée seule avec leurs propres moyens. On parle de Lee Enfield 303, une arme qui est en service depuis la Première Guerre mondiale, un coup à la fois. Là.
Et qui sera dans les maisons gaspésiennes pendant plusieurs années après pour aller à la chasse.
Exactement. Je suis un fier propriétaire moi-même de Lee Enfield 303.
Je pense que la première fois que j'ai vu un arme militaire, c'est ça.
Exactement. Et puis, des grenades et des mortiers, quelques fusils mitrailleurs, mais essentiellement, ça ressemblait à ça là, en termes d'armement. Tandis que les forces japonaises, eux, avaient des véhicules blindés et tout le kit, là, et des avions. Donc, c'est vraiment pas des conditions favorables. Les pertes commencent à s'accumuler, là. Assez rapidement. Couple de petites anecdotes particulièrement par rapport aux Gaspésiens. Il y a deux frères, les frères Murphy, Léo et Reynold Murphy, de New Richmond, en Gaspésie. Et eux, ils faisaient partie de la compagnie D. La compagnie D, beaucoup de Gaspésiens, à peu près la moitié. Une compagnie, juste en passant, une compagnie, c'est à peu près dans l'ordre de 175 à 200, là, pour le cas qui nous intéresse. Là. À peu près la moitié de ça, c'était les Gaspésiens. Donc, la compagnie D se fait attaquer par les Japonais, et puis une des victimes est Reynold Murphy. Parmi un autre soldat qui faisait partie de la compagnie D, c'est Bill McWhorter, de Gaspé qu'on a mentionné précédemment. Il faisait partie, il a été témoin de la scène que je vais décrire. Reynold Murphy est atteint par balle par les Japonais lorsque les troupes sont en retrait, si on veut. Là. Et puis son frère a vu ça là, se passer devant lui. Ça fait qu'on peut imaginer un peu la scène quand même assez désolante.
J'aurais pensé que justement dans l'armée, on avait tendance à séparer des familles justement pour pas avoir des... Ouais. Parce que ça, c'est sûr que perdre un ami, mais perdre un membre de la famille, c'est comme une coche au-dessus là, dans le feu de l'action en plus.
C'est ça.
Là, tu perds tes moyens. T'es plus...
Ouais, c'est ça, là, t'es plus trop efficace comme ça. Là. Mais non, il y a beaucoup de... Ben, beaucoup, peut-être pas beaucoup, là, mais il y avait des instances là, où il y avait des frères là, à l'intérieur, non seulement à l'intérieur de la même unité, mais de la même compagnie et même, dans certains cas, dans le même peloton. Je pense aux frères Sauson. Il y avait trois frères Sauson de Chégouac, dans le bout de Passe-Fébiac, entre Port-Daniel et Passe-Fébiac. Trois frères. Il y en a deux qui... il y en a seulement un qui est revenu de la gang. Un qui est décédé comme prisonnier à Hong Kong, puis l'autre est décédé comme prisonnier au Japon. Je pense qu'on comprend le portrait, là. C'est la situation est très, très noire là, pour les Canadiens. Il faut se rappeler aussi la topographie de l'île de Hong Kong. C'est très montagneux. Puis là, on parle de... On est à pied, là. On est au pas de course. Là. On monte et descend. C'est des montagnes, là. Pour donner une ordre de grandeur, là, le mont Béchervais serait considéré comme un petit mont, là.
Monticule.
Ouais, un monticule.
Face à la géographie.
Ouais, qui est là-bas, là.
De la cuvette, donc.
Ouais, c'est ça. Puis pour ce qui est de la compagnie D... Eux, là, leur baptême de feu, l'incident que je décrivais là, avec les frères Murphy, ça s'est passé après, deux jours après l'attaque initiale, à une place qui s'appelait la côte Obélisque. Le nom dit bien, là. Il y a un obélisque, une structure à peu près une trentaine de mètres sur le haut d'une montagne. Et c'est là que le premier contact s'est fait avec les Japonais. Sur l'île de Hong Kong, il n'y a pas de puits. L'approvisionnement en eau se fait par l'eau de pluie. Donc, il y a beaucoup d'un système de canaux à travers l'île. Le mot chinois pour le mot usuel, c'est Nala. Ils appellent ça des Nala. Il y a tout un réseau de ces canaux un peu partout à travers l'île de Hong Kong. Donc, les Japonais attaquent la compagnie D qui sont au sommet de la côte Obelisk Hill. La compagnie D, ils ont subi des pertes, dont le monsieur Murphy, et il y a plusieurs blessés, dont un monsieur du Nouveau-Brunswick du nom de Jim Dara. Lui a été blessé à un coup de balle au fémur. On prend une seconde pour penser à ça, là. Un coup de balle au fémur. Donc, ses camarades, dont M. Phil Doddridge, il faut l'évacuer. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un brancard de fortune avec un style de poncho et deux fusils, enrouler ça, et puis mettre M. Dara dans le poncho. Et puis, là, tout le monde, la compagnie, descend dans le canal, qui est à peu près une hauteur de 1 mètre, 3 pieds. On imagine le scénario, là. Tu descends la côte avec quelqu'un qui est blessé, avec les deux carabines et tout ça. On essaie de se tenir la tête protégée. Donc, on est courbé vers l'avant, parce que si on se lève trop, ben là, on devient une cible. Et puis, il se met à mouiller, de façon quand même assez intense, parce qu'on est dans un milieu tropique. Là. Quand il pleut, il pleut. C'est pas long que le Nala commence à se remplir d'eau. Là, ça devient un combat entre essayer pour que la victime, M. Dara, se noie pas, là, de garder à l'extérieur de l'eau, là, et descendre la côte. Là. C'est toute une aventure. Donc, durant cet épisode-là, dans quelques heures, là, ça avait été le baptême de feu de la compagnie D, Royal Rifles, dont faisait partie, comme je disais, là, plusieurs Gaspésiens, dont M. Bill McQuarter était témoin de cette scène-là. Non seulement un témoin, un participant actif.
Très rapidement, les commandements vont se rendre compte que c'est impossible de gagner. Est-ce que c'est mentionné dans le journal de guerre? À quel moment ils ont fait « c'est fini, c'est sûr qu'on va perdre »?
Si je me rappelle bien, il n'y a pas nécessairement de je suis pas capable de mettre le doigt là, sur un moment spécifique, mais par contre, on est capable de sentir par les écrits une certaine frustration envers les dirigeants, là, les plus hauts gradés, là, dans le sens qu'ils semblent pas comprendre exactement la situation. Il semble être une plainte là, des commandants sur le terrain, là, que l'état-major semble pas comprendre, là, que c'était vraiment une situation critique, si on veut. On recule durant sur l'île de Hong Kong, à un point tel qu'on se retrouve sur le côté sud de l'île. Et puis là, il s'est passé une couple d'événements qui valent la peine peut-être qu'on s'attarde à eux juste pour un instant. Un des villages sur le sud de l'île de Hong Kong s'appelle Repulse Bay. Repulse Bay, ça fait penser un peu à la Côte d'Azur. C'est les palmiers, des belles plages sablonneuses, puis des gens avec... on voit des Bentley, des Rolls-Royce, etc. Là, des gens fortunés. Là, c'est. À Repulse Bay, en 1941, il y a l'hôtel Repulse Bay, qui, à l'époque de la bataille, qui sert d'hôpital. Et puis la compagnie A de... Parce qu'il faut se rappeler, OK, parce que je fais souvent référence à compagnie, ça vaut peut-être la peine de juste prendre un instant. Les Royal Rifles, il y avait 5 compagnies. La compagnie A, B, C, D et la compagnie du quartier général. 4 compagnies opérationnelles, si on veut, puis une compagnie plus de style état-major et services connexes, comme transport, administration, etc. La compagnie A se retrouve à Repulse Bay, où une certaine population civile qui s'est réfugiée à l'intérieur de l'hôtel, comme je disais, là, ça servait un peu d'hôpital de fortune. C'est une scène quand même assez chaotique. Le 23 décembre 1941, les Japonais arrivent à Repulse Bay et puis bombardent l'hôtel Repulse. Puis il y en a perdu plusieurs membres de la compagnie A. Ils ont aussi, à cause que les Canadiens se retrouvaient à être reculés à la mer, là, ils ont exécuté et lancé à la mer. Donc c'est une situation quand même assez désespérée. Là. Et puis là, on se retrouve le jour de Noël. La situation est vraiment, vraiment désespérée. Je pense que le mot était bien choisi. Et puis, il y a une décision qui descend du quartier général, une décision qui allait être contestée là, plus tard, là, non seulement les historiens, mais par les anciens combattants, là, ceux qui ont participé. Là. La décision fut prise qu'on allait contre-attaquer les Japonais le jour de Noël 1941.
À quel moment ils ont pensé que ça pouvait être une bonne idée?
C'est ça, exactement. L'odieux est tombé sur les épaules de nos valeureux membres de la compagnie D. Encore, je rappelle là, que la compagnie D, c'est à peu près 50% gaspésien. Puis c'est ça, là, ils ont reçu la mission d'attaquer les Japonais. Les Japonais, à ce moment-là, occupaient un édifice, une manière de bungalow, dans le secteur Stanley. Stanley, un autre village là, du sud de l'île de Hong Kong, qui est nommé, en fait, pour le père de Stanley, de la Coupe Stanley, qui était le gouverneur à une époque préalable.
Et qui avait aussi une maison à New Richmond.
Exactement. Exactement. Il y a des liens historiques, il y en a plein. Et puis, ils ont reçu l'ordre, en plein jour, d'attaquer le bungalow qui était occupé par les forces japonaises. Donc, ils partent. À peu près, à ce moment-ci, là, on est rendu à peu près à 115 membres de la compagnie D. Là, parce qu'on compte les morts et les blessés. Là, on est rendu à peu près à 115, oui.
Sans support aérien, sans support d'artillerie.
En plein jour. En plein jour. Puis le bungalow se trouvait à être entre la position de la compagnie D et les Japonais dans leur bungalow. Se trouvait un cimetière. Il fallait passer à travers le cimetière pour se rendre au bungalow. Donc, les Japonais avaient des snipers. Snipers, tireurs d'élite?
Mais ouais. Le terme sniper est accepté en français, je pense.
OK. Des snipers là, sur le toit du bungalow. Et puis pour eux, c'était quand même un ouvrage relativement facile. Ça pour dire que la compagnie D a souffert 75% de pertes morts et blessés.
Lors de cette attaque.
Lors de cette attaque, le jour de Noël 1941. Ils ont réussi à déloger les Japonais du bungalow. Mais par contre, les Japonais avaient un autre bataillon en support, à peu près à 400 mètres de là. Donc, ils ont entendu, évidemment, tout le bruit là, que ça a fait. Là. Et puis, les Canadiens se sont retrouvés délogés encore. Puis encore, il a fallu qu'ils battent retraite. Puis, un peu en même temps de l'épisode que je viens de décrire, un des épisodes les plus noirs de la bataille de Hong Kong, ce qu'ils appellent le Collège Saint-Stephens. Le Collège Saint-Stephens était un collège privé, un collège privé prestigieux, qui lui aussi avait été converti en hôpital de fortune. Puis à l'intérieur de cet hôpital se retrouvaient plusieurs Canadiens, puis des Gaspésiens particulièrement, soit qui étaient blessés ou soit qu'ils étaient employés comme infirmiers ou amenaient un support à l'hôpital. Le 25 décembre, jour de Noël, en parallèle avec l'attaque sur Stanley, les Japonais rentrent dans l'hôpital à Saint-Stephens rapidement et assassinent les médecins qui sont là. Ils ont violé et tué certaines infirmières, pas toutes, mais certaines infirmières, et ont tué les soldats blessés dans leur lit, etc. Le massacre de Saint-Stephens. Un des soldats canadiens, un des Gaspésiens qui est tombé à Saint-Stephens, c'est un jeune qui s'appelait Billy Fallow, qui était originaire de New Richmond, est décédé à Saint-Stephens. Là, on se retrouve le jour de Noël. L'attaque sur Stanley n'était pas un succès. Ce qui restait de la compagnie D a battu retraite, eux aussi. Et dans les moments qui ont suivi, ils reçoivent la nouvelle que le gouverneur de la colonie de Hong Kong, Sir Mark Young, s'est rendu aux Japonais.
C'est la fin.
C'est la fin. À partir de ce moment-là, ils se retrouvent prisonniers, les Japonais.
Mais c'est le début aussi.
C'est le début d'un tout autre enfer. J'ai eu la chance de discuter de ce moment-là, que les forces se sont rendues avec plusieurs, M. Doddridge et d'autres anciens, des gens qui étaient là, puis leur demander leur état d'esprit par rapport à ça. Pratiquement, de façon unanime, c'était que... C'est certain que le fait de te rendre, c'est quelque chose qui va un peu contre tous nos valeurs. Quand on s'imagine soldat, on s'imagine participer dans une action militaire, on se voit pas là comme je vais être obligé de me rendre. Je vais me retrouver prisonnier de guerre. C'est quelque chose que tu penses. Ça rentre même pas dans ton esprit. Donc, ça revient avec une certaine détresse, si on veut, là. Mais aussi le fait que ben, je suis toujours vivant. Donc, c'est une période très difficile là, du point de vue psychologique.
Rapidement, les Japonais vont leur expliquer c'est quoi qu'ils vont faire pour le...
Pour ce qui est des Royal Rifles, ce que ça voulait dire en termes pratiques, là, c'est ils ont rendu leur arme, une scène, comme on peut imaginer, là, dans un tas, une pile. Ils rendent leur arme et là, ils sont ordonnés de commencer à marcher. Et puis, sous le regard de mitrailleurs, commence une longue marche d'à peu près, moi je dirais, à peu près 10 kilomètres. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du côté sud de l'île de Hong Kong, on se rend jusqu'à North Point. North Point se trouve, comme le nom l'indique, sur le côté nord de l'île de Hong Kong. Puis là, les soldats, ils ont faim, ils sont blessés. Certains blessés sérieusement. Puis la macabre marche vers North Point se conclut avec leur arrivée. Le premier camp dans lequel ils se retrouvent. On voit là que ça a subi là, les effets du combat. Il y a des trous dans le plafond. On voit qu'il y avait eu des chevaux dans le camp, etc. Donc, c'était pas nécessairement des conditions très salubres. Ils se retrouvaient dans des cellules de 8 pieds par 8 pieds, à peu près. Là. Un petit peu plus que 2 mètres par 2 mètres, si vous préférez. Ils se retrouvaient 5 ou 6 par petit cubicule.
Okay.
À leur arrivée du camp de North Point. Puis, dans les jours qui ont suivi leur arrivée au camp de prisonniers de North Point, il y a 3 jeunes soldats des Winnipeg Grenadiers qui se sont évadés. Mais par contre, ils ont été capturés de façon quand même assez rapide. Là. C'était pas facile de se dissimuler là, à travers la foule. Là. Ils ont été ramenés. Et puis, ils ont assemblé tous les prisonniers dans le camp. Et puis, devant tout le monde, ils ont décapités. Un peu pour servir de...
D'exemple.
De leçon et d'avertissement. Là.
Pour les prochains qui auraient l'envie de se sauver.
C'est ça. Quand même assez intense là, comme expérience.
Il y a comme 2 éléments là, subséquents. Tu viens de vivre ton baptême du feu. T'as passé comme 2 semaines oui, au maximum.
À l'enfer.
Tu tombes dans une zone de complète insécurité et tu dis « Qu'est-ce qui va se passer de ma vie? »
L'inconnu. Là.
Puis là, tu tombes dans le camp. Puis là, tu dis... Tu sais la date de rentrée, mais quand est-ce que ça va finir?
Exactement. Donc, au quotidien, pas longtemps après leur arrivée à North Point, il y a une routine quotidienne qui s'installe. Directement, l'autre côté du Havre, à Hong Kong, se situe l'aéroport de Kai Tak. Et à l'époque, l'aéroport de Kai Tak avait une piste d'atterrissage qui était jugée trop courte par les Japonais. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est... En fait, l'aéroport de Kai Tak, une extrémité, c'est le Havre comme tel, c'est directement sur l'eau. Et puis, à l'autre extrémité, il y avait une colline. Et puis, les Canadiens, prisonniers de guerre canadiens, leur emploi, là, si on veut, là, c'était d'éliminer la colline au pic par appel, là, comme on dit. Là. Et puis, les journées commençaient à la levée du soleil. Ils se levaient à North Point, prenaient un traversier, traversaient le Havre, se rendaient à Kai Tak, passaient la journée au pic par appel. Puis, c'est là aussi qu'on a commencé à avoir les premiers indices de ce qui allait être un des éléments les plus difficiles pour les prisonniers, le manque de nourriture. C'est du riz, du bok choy. Ça ressemblait pas mal à ça. Un régime très pauvre en protéines et en vitamines qui a causé son autre problème aussi.
Selon la Convention de Genève, on peut pas utiliser les prisonniers pour le travail forcé. Ça fait que déjà, les Japonais se positionnaient, le Japon se positionnait comme à l'encontre de la Convention de Genève parce qu'ils utilisaient tous les... Soit qu'ils étaient des camps de prisonniers, mais ceux qui pouvaient travailler étaient... automatiquement affecté du travail forcé.
D'accord, oui. C'est ça. La Convention de Genève en a pris pour son rhume à Hong Kong. Ben, à Hong Kong et sous le joug japonais en général. Là. La routine, de façon quotidienne, ressemblait à ce que j'ai décrit. Là. Et puis, au mois de septembre 1942. Donc, à peu près 9 mois, 10 mois plus tard, après être prisonnier, là, les effets là, du régime, là, comme je disais, là, qui était pauvre en protéines et vitamines, etc., la charge de travail, les conditions d'insalubrité dans le camp, etc., commencent à avoir des effets. Là. On commence à avoir l'apparition de maladies telles le beriberi. Je peux voir là, par le visage que tu viens de faire. C'est une condition là, qui affecte essentiellement tout ton système immunitaire qui fait défaut. Là. Donc, ça, c'est dû à une carence en vitamines.
Puis ça, climat tropical, donc, ouais, les dysenteries,
exactement,
diphtérie, toutes les...
Exactement, exactement. Puis tu mentionnes diphtérie particulièrement virulente. Donc, la décision fut prise en septembre 1942 de déménager les prisonniers du camp de North Point. On les retourne du côté du continent au camp de Shamshipo. Si vous avez bien écouté, Shamshipo, c'était les premières baraques que les Canadiens ont occupées lorsqu'ils sont arrivés à Hong Kong un an auparavant. Par contre, quand ils sont retourné comme prisonnier de guerre, les conditions étaient pas tout à fait les mêmes. Là. Le camp, il restait plus de vitres, de châssis, plus de portes, des trous dans le toit, etc. Là. Donc, on déménage tout ce beau monde-là, tous les Canadiens, on les déménage à Shamshipo. Et puis là, les décès commencent à s'accumuler. C'est de façon tragique, là, puis de façon régulière. De septembre 42, aller jusqu'au début du printemps 43, il y en a au-dessus de 100 qui décèdent de diverses maladies, là, mais plus particulièrement de la diphtérie. Là.
Et tout commence par la malnutrition.
C'est ça. Exactement. Au printemps 43, la décision fut prise de prendre les prisonniers qui étaient plus en santé, là, les moins malades, là, si on veut, puis de les envoyer du côté du Japon. Ceux qui sont pas en assez bonne forme, là, si on veut, pour survivre le voyage, demeurent à Hong Kong. Ça fait qu'il y en a une proportion importante là, qui ont resté à Hong Kong. Ceux qui étaient plus malades ont resté à Hong Kong, tandis que ceux qui étaient meilleure santé, si on veut, se retrouvent à ce qu'ils appelaient les navires de l'enfer. En anglais, ils appelaient ça des Hell Ships. Dans le cas des Gaspésiens, là, il y a Bill McWhorter va être un participant dans les événements là, que je vais décrire dans un instant. On a pris 700 quelques Canadiens. On les a mis dans la cale d'un navire. Pas de lit, pas de siège, rien de ça. Là. C'est dans le fond de chose, pas de toilette. Et puis, on fait le trajet de Hong Kong aller jusqu'au Japon. Un trajet qui a pris, je crois, 4 ou 5 jours. Et puis, il y a quelqu'un qui était là, un monsieur Lance Ross, sergent Lance Ross. Puis, s'il y a quelqu'un qui veut faire une recherche Google sur un personnage, moi, je trouve que c'est un personnage héroïque, là. Le sergent Lance Ross. Si on fait Google Lance Ross, Hong Kong, Royal Rifles, vous allez trouver tout plein d'extraits vidéo et d'écrits là, par rapport à lui. Mais lui, il décrivait la scène comme il disait qu'il y avait 50% du monde qui avait peur de se faire torpiller, puis il y en avait 50% qui espéraient se faire torpiller. Ça fait que c'est, comme qu'il disait en anglais, là, il dit « it was 50-50 ». Ils se sont rendus au Japon sans trop de problèmes. À partir de là, ils ont été divisés là, dans différents camps. Il y en a certains qui ont travaillé dans des chantiers maritimes. Il y en a certains qui ont travaillé dans des mines de charbon. Puis on peut s'imaginer que c'est pas les conditions qu'on voit dans les sites miniers modernes. Là. Tout à l'honneur des soldats, des Canadiens, là, des Royal Rifles et des Winnipeg Grenadiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actes de sabotage et de subterfuges pour essayer de nuire à l'effort de guerre japonais. Là. Je sais qu'on discutait, Félix, on discutait à un moment donné, on parlait de navire, puis tu comptais là, qu'il y avait quelqu'un qui parlait des rivets?
Monsieur Percy Simpson,
oui.
Qui faisait un rivet, deux rivets, il sautait un rivet... S'il peut couler, le maudit.
Oui, c'est ça.
Sûrement dans la langue de Shakespeare.
Oui, c'est ça, oui. La langue de Shakespeare la plus colorée.
Oui.
Puis le Lance Ross, lui aussi, il décrivait des instances là, où il prenait l'équipement, les foreurs qui servaient là, pour les mines de charbon. Et puis, tous les efforts ont été faits là, pour briser ces équipements. Puis aussi, il y a eu un incident en particulier là, où ils ont mis feu à une génératrice sous terre. Les Canadiens étaient, oui, ils étaient prisonniers de guerre, mais ils n'ont jamais arrêté de combattre. Là. Il y a des soldats là, parmi eux là, qui ont, comme je disais, là, qui ont tout fait pour essayer de nuire aux efforts japonais.
au péril de leur vie. Parce
au péril de leur vie, certain.
Toute tentative de sabotage aurait été sûrement... Si vous étiez pris, c'était la fin.
C'est la fin, certain. C'est la fin, certain.
Il n'y avait pas de tribunal. C'était instantané. Lui qui supervisait l'opération vous éliminait. C'était la fin.
Puis le même sergent Lance Ross a été pris à un moment donné avec... il y avait des cartes. Il avait commencé à planifier leur... Ils ont toujours planifié leur évasion. Là. Ils travaillaient là-dessus tout le temps. Et puis il y avait des cartes là, du camp, puis des environnements, puis essayer de trouver un peu où ils étaient se situer géographiquement. Parce qu'il n'y avait pas accès à l'Internet. Les Japonais ont découvert ce plan. Donc, le sergent Ross s'est retrouvé devant le commandant du camp. Puis le commandant du camp il a dit « On vient de trouver ça, ton plan. » Puis le sergent Ross l'a regardé droit dans les yeux. Il dit « Oui. » Il dit « Puis moi, j'ai l'intention de m'évader. » Il dit « Puis la guerre, il dit, elle va finir, puis c'est nous qui va gagner. » De façon quand même assez rapide, le sergent Ross s'est retrouvé dans un cachot. Il s'est retrouvé dans un trou. Essentiellement avec trois de ses complices. Et puis, il a été forcé à se tenir debout à l'attention dans un trou là, en terre. Pas le droit de parler, évidemment. Puis, à un moment donné, parce que là, il y avait des gars qui faiblissaient là, là-dedans. Le sergent Ross avait fait parler à un autre de ses camarades pour essayer de l'encourager à continuer tout ça. Puis, les Japonais l'ont entendu parler. Ils l'ont sorti du trou, puis ils ont... fait passer un mauvais quart d'heure, comme on dirait. Là. Tabassé quand même assez violemment. Là. Ça, c'est juste un exemple là, parmi tant d'autres.
Quand il y a eu la séparation des soldats, est-ce qu'il y en a qui t'ont témoigné de ce moment-là, comment c'était? Parce qu'on vit comme une espèce d'autarcie, vous êtes un petit groupe, vous êtes un sur les autres, très très près. C'est ta seule sécurité en tant qu'être humain d'être ensemble. Là. De tout à coup, un matin, on démembre ce groupe. Fait que les gens se trouvent éparpillés. Il y a ceux qui restent à Hong Kong, ceux qui partent pour le Japon. Là, tu dis, j'ai plus mes alliés, on pourrait dire. Déjà que t'es faible comme prisonnier, là, tu dis, là, on est morcelé, c'est fini. Là.
Puis exactement. Puis ceux qui sont demeurés à Hong Kong étaient, comme on disait, là, étaient malades, là, étaient dans un piètre état. Oui, des scènes où deux copains, deux camarades se retrouvent, un qui choisit pour aller au Japon, puis l'autre reste derrière, puis l'autre qui reste derrière supplie son ami, amène-moi avec toi, là, je vais mourir. Le sergent Ross, justement, décrivait une scène comme ça. Là. C'est un gars qui, tout le long de ses témoignages, demeurait calme, demeurait froid, un peu, là. Mais quand il décrivait cette instance-là, l'émotion s'est emparée de lui. Mais par contre, dans ce cas-ci, l'histoire s'est bien finie. Son ami a survécu.
C'est ceux qui sont restés à Hong Kong, qui étaient malades, là, qui ne pouvaient pas être déménagés, de ne pas avoir un taux de... Le taux de survie devait être assez faible.
C'est ça. En fait, c'est peut-être le temps d'en parler de chiffres. Dès 1976, Canadiens...
Avec Gander.
C'est ça, exactement, qui sont allés à Hong Kong. Il y en a 290 qui sont décédés durant la bataille. 291 si on compte Gander. Des 1976 Canadiens qui sont allés à Hong Kong, il y en a 263 qui sont morts comme prisonniers de guerre.
Donc presque autant que durant la période de combat.
C'est énorme.
Mais c'est aussi très impressionnant par rapport aux conditions de détention que tant de personnes aient survécu à ça.
Absolument. Là. Absolument. Puis ça démontre un peu la force du... human spirit.
La résilience,
c'est ça, là. C'est ça. Puis moi, je trouve que ces gens-là, c'est des êtres remarquables. C'est des gens ordinaires dans une situation...
Extraordinaire,
c'est ça, là. C'est un peu ça, la définition d'un héros, là. C'est pas un mot que j'aime utiliser souvent. C'est pas un mot que je galvaude à gauche et à droite, là, mais... Les soldats n'avaient pas nécessairement beaucoup de nouvelles de ce qui se passait à l'extérieur.
C'était la force des Japonais de ne pas diffuser l'information.
Ben exactement. Mais par contre, il y avait quand même... Il y a toujours un underground. Tu prends n'importe quel groupe, là, ils développent des réseaux, des fois, avec des techniques très ingénieuses. À Hong Kong, justement, il y avait un prisonnier qui était d'origine portugaise. Comment il s'est retrouvé à Hong Kong? Je ne sais pas. Mais il y avait un prisonnier portugais qui était parmi leurs... Puis il y avait, lui, une certaine connaissance, c'était un patenteux, comme on dirait, là, qui avait réussi à se construire ou se fabriquer un récepteur radio qui marchait plus ou moins. Là. Donc, il y avait quand même une certaine notion là, de qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. La nouvelle de la tombée de Hitler a fait le tour, là, particulièrement à Hong Kong. Donc, les gens savaient que, OK, on semble avoir réglé le cas, là, en tout cas, pour ce qui est d'Europe. On savait là, que la guerre était, comment on dirait en anglais, une full swing, là, en plein essor là, au Pacifique. On savait que les Américains s'en venaient.
Oui, puis il n'y avait pas de... C'était l'avance vitesse grand V, malgré la résistance.
Oui. Bon, oui, ça a été
des
un carnage.
Des 24 000 soldats faire une dizaine de prisonniers pour des îles. Là. Je me souviens plus du nom exactement de la bataille, là, mais dans la série, la longue série de reprises.
Ça, là, Iwo Jima, etc. Là. Donc, on se retrouve au mois d'août 1945. Les gens se rappelleront que les Américains ont largué la première bombe atomique sur la ville industrielle de Hiroshima. Quelques jours plus tard, ils larguent une deuxième bombe atomique sur la ville de Nagasaki, qui a fait que les Japonais se sont rendus. Donc, d'une façon pratique, ils se trouvaient que les prisonniers étaient, avec la capitulation du Japon, étaient libérés. Et c'est quand même passé beaucoup de temps entre la capitulation des Japonais et l'arrivée des...
De la nourriture.
L'arrivée de la nourriture et l'arrivée des secours, là, si on veut. Là.
Que la guerre finit, mais au niveau des ressources, le Japon, il n'y en a pas plus. Là.
C'est ça.
Ils viennent de subir. Ils sont en guerre depuis 37. Il ne reste plus grand-chose sur l'île, plus les bombardements américains.
Ouais. Puis en termes pratiques, ce que ça voulait dire pour les Canadiens qui étaient au Japon, pas ceux qui étaient nécessairement à Hong Kong, mais ceux qui étaient au Japon, c'est que là, ils étaient d'une drôle de façon, dans leur esprit, ils se trouvaient plus à risque. Parce que non seulement il fallait préoccuper des soldats, mais il fallait se préoccuper de la population civile. Ils ne pouvaient pas simplement juste sortir du camp puis...
Il aurait pu facilement être lynché.
C'est ça, là. Commencer à déambuler
On a gagné.
C'est ça. Là. Mais rapidement, on voit là, que la discipline militaire et les traditions militaires ont repris le dessus. Là. Ils sont partis d'être des prisonniers de guerre à redevenir des soldats. Et puis, tout la façon de faire militaire...
Le mécanisme des grades.
Exactement. Donc, la discipline a embarqué. Et puis tout ça, il y a une routine qui s'est faite. Donc, ça s'est fait relativement bien. Puis à Hong Kong, c'était un peu différent dans le sens que Hong Kong, c'est pas au Japon. Hein. Hong Kong, c'est indépendant là, du Japon. Il y a des scènes quand même assez farfelues là, qui se sont produites là-bas. Je parlais de mon ami, M. Doddridge. M. Doddridge, lui, a pas fait le voyage au Japon. M. Doddridge est demeuré à Hong Kong. Mais lors de la libération, c'est tout, ils se sont trouvés libérés. Je l'ai interviewé sur ce sujet-là une couple de fois, puis on a fait un documentaire à CBC, à radio, là-dessus, sur la libération. C'est certain que pour lui, c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Je veux dire, tu te retrouves libéré.
Après combien de jours?
44 mois. 44 mois. Pensons-y, trois ans et demi. Plus de trois ans et demi.
L'incarcération avec des conditions inhumaines pour la majorité du
temps. Puis dans son cas, à lui, c'était sa jeunesse. Là. Il avait 19 ans quand il a été pris prisonnier, puis 23. Puis moi, j'ai vu des photos de lui prises à deux ou trois mois après sa libération. Là. Il a l'air d'un gars de trentaine avancée, jeune quarantaine. Là. Puis il en avait seulement 23. Là. Dans son cas, lui, dans sa façon de le raconter à lui, là, c'est eux qui ont annoncé aux Japonais que la guerre était finie. Là, il était libre de se promener un peu partout à Hong Kong. Il y a certaines scènes où les gars, on peut s'imaginer, mettez-vous à leur place, ça fait 44 mois que t'es prisonnier. D'un coup, là, t'es libre. Là. Ça fait qu'il y a eu des excès. Là. Ce fut la fête. Ils se sont retrouvés à un moment donné, lui et un de ses camarades, où il y avait une collection de soldats japonais là, qui étaient en train de rendre leur arme. Puis chaque soldat japonais avait une épée. Une épée, quand même, une épée là, de, je sais pas là...
Ce qui peut rappeler un peu un sabre de samouraï.
Ouais, exactement, avec
un étui.
Un étui, merci.
Un fourreau.
Je faisais des signes.
Ouais.
Puis une épée de longueur, je parle à peu près un mètre, peut-être même un peu plus qu'un mètre. Fait que lui, M. Doddridge et son camarade ont vu la pile d'épée. Ils se sont dirigés vers la pile d'épée, puis M. Doddridge l'a ramassé. Il en a pris deux. Puis il se dirigeait vers la sortie, et puis... soldat japonais qui l'a interpellé. M. Doddridge, avec ses deux épées, se retourne, puis le japonais fait signe. Il faut que tu signes. Ça me prend une signature. Tous ceux qui ont servi dans l'armée verront l'humour là-dedans, là, parce que dans l'armée, il faut que tu signes pour tout. Là. Et puis, ça fait que M. Doddridge, ben, il prend le crayon, puis il signe sur le premier nom qui est venu à l'idée, c'est l'acteur américain Clark Gable. Ça fait qu'il a signé sur le papier Clark Gable. Et puis, juste pour faire une longue histoire, un petit peu plus longue, il y avait deux épées. Il en a donné une à un marin américain sur le bateau, sur le chemin de retour, en retour de je sais pas combien de cartons de cigarettes. Là. Il a fait un échange, c'est ça. Fait un deal. Et puis l'autre épée est à New Richmond, dans le musée militaire de la Baie des Chaleurs, posée de façon très évidente. C'est un artefact, on prend beaucoup de fierté dans cet artefact-là. Et puis on lui a donné le nom de l'épée Clark Gable.
Oui, effectivement, Clark Gable Sword. Qu'au Japon, il y a peut-être un musée dans lequel il y a le papier signé Clark Gable.
Oui, c'est ça.
On parle de quelle période pour le retour des soldats canadiens?
Ça a pris quand même à peu près 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines, pour que ceux de Hong Kong, dans le cas qui nous concerne, c'était des Américains qui sont arrivés à Hong Kong, un bateau américain. De façon quand même assez rapide, là, ils ont été pris en charge par les services médicaux et tout ça, et puis...
Nourriture.
Oui, exactement, tout le kit. Là. Quand même, de façon assez rapide, le corps humain est une machine extraordinaire. Hein. En tout cas, d'après le témoignage de M. Doddridge, une fois rendu à Manille, quelques jours plus tard, là, il se sentait bien. Là. Il se sentait assez bien pour profiter de la vie d'un homme libre.
Après 3 ans et demi de détention.
À Manny, c'est d'entendre la joie avec laquelle il décrit ses premiers moments de liberté là, à Hong Kong. Il disait que lui, c'était la... il y avait de la bière. Il dit, il y avait de la bière. Puis c'est d'entendre son... et puis, il dit, du poulet. Puis là, il dit, du beurre de peanut butter. C'est tellement... C'est juste quasiment le bonheur à l'état pur. Une de ses premières observations, c'était qu'il y avait de la... Il dit, on entendait de la musique partout. Il dit, puis il y avait un chanteur. Il dit, on entendait toujours le même chanteur. Il dit, puis je demandais à quelqu'un, il dit, c'est qui ce chanteur-là? Il dit, Frank Sinatra. Il dit, who the hell is Frank Sinatra? Mais, fait que c'est ça. Ils ont fait escale à... Dans le cas qui nous concerne, ils ont fait escale à Manny. Puis de Manny, ils se sont rendus à San Francisco. Puis de San Francisco, ils se sont rendus à Seattle par train. Puis de Seattle, ils se sont rendus à Victoria, enfin rendus au Canada.
Ah, il doit avoir une symbolique épouvantable quand tu remets ton pied sur le...
Ouais.
Même le continent nord-américain ne va pas le faire le même effet que...
C'est ça. Il y avait deux Gaspésiens qui étaient sur le pont du bateau lorsqu'ils arrivaient à Victoria. Deux gars qui avaient été prisonniers ensemble pendant 44 mois. Il y avait un des deux prisonniers qui racontait toujours des histoires à l'autre par rapport à sa blonde. À un point tel que l'autre prisonnier, il commençait à douter de l'existence de la blonde. T'étais pas trop certain si la blonde existait vraiment. Là, mais... En tout cas, il arrive sur le quai de Victoria. Le gars qui parlait toujours à sa blonde regarde l'autre, puis il exclama Look, Irene, sa blonde.
Oh.
Était sur le quai. Elle s'avait enrôlée, elle aussi, dans ce qu'elle appelait à l'époque le Canadian Women's Army Corps. Je sais pas s'il y avait un terme français pour ça. Probablement, non. À l'époque, le bilinguisme n'était pas...
Autre temps.
Ouais, c'est ça, autre temps.
Autre mot.
Ouais. Ça pour dire qu'elle était là.
Elle l'attendait.
Ouais, elle se trouvait à être avec
Victoria. OK, oui, parce...
dans le cadre de ses fonctions. Juste pour boucler la boucle là-dessus, ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants, puis etc. Ils se sont établis dans la région de Métis.
OK.
Ces gens-là.
Wow.
À partir de Victoria, bien, rendu à Victoria, évidemment, l'armée étant l'armée, là, c'était la paperasse, beaucoup de paperasse. Et debriefing, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, là, durant leur captivité. Là, c'est là qu'ils ont commencé à écrire les différents affidavits, là, pour les...
criminels de guerre.
C'est ça, là, pour les instances juridiques, là, qui allaient suivre. C'était pour des nouveaux uniformes, etc. Encore des tests médicaux. Et puis, on embarque sur le train et on retourne vers chez nous.
Là. Parce que là, les prisonniers, Hong Kong et Japon, sont pas sur le même navire quand ils reviennent.
Non.
C'est ça, ils sont séparés. Ouais. Là. Est-ce qu'il y a un moment où ils se rejoignent?
C'est ça, à Victoria.
OK!
À Victoria, il y a eu des retrouvailles. Là. Pas tous, mais la majorité. Fait que c'est ça. Là, fait que là, ils font le trajet, en fait...
En sens contraire.
En sens contraire.
Ils se retrouvent à la maison.
Là, ils se retrouvent... Là, nos camarades des Royal Rifles se retrouvent à Montréal. Imaginez la scène. Parce que là, les gars vont mieux. Là. Règle générale, c'est certain qu'il y en a beaucoup là-dedans qui souffrent encore de
malnutrition.
C'est pas tout le monde là, qui est pétant de santé. Là.
Parce que M. McWhirter était sous la barre des 100 livres sur les, à l'œil, sur les photos. C'est sûr que ça revient comme quand même dans la fleur de l'âge. Là, ça revient rapidement.
Exactement. C'était des... Parce que M. McWhorter, on se rappelle de M. McWhorter, quand même un spécimen physique. C'était un personnage imposant, M. McWhorter. Là.
Il dépassait 6 pieds. Là,
oh, oui, oui.
Et on parle de moins de 100 livres à la fin de la détention.
Donc, on se retrouve à Montréal. On fait la fête. Un thème récurrent. Ça reste que c'est des Gaspésiens. Puis, où il y a un groupe de Gaspésiens, généralement, la fête est pas loin.
Effectivement, je ne peux te contredire sur ce sujet.
Puis dans le concret, là, pour les Gaspésiens, ce que ça a voulu dire, c'est qu'ils se sont retrouvés chez eux, chez nous, juste avant la période des fêtes de 1945.
45.
Et puis, il y a des témoins oculaires, dont ma propre mère. Ma mère a été élevée à New Richmond Station, comme le nom l'indique, juste à côté de la station de train. Son père était marchand général. Elle se souvient de l'arrivée des, je veux dire comme elle, des gars de Hong Kong quand ils sont arrivés à New Richmond. Puis elle se souvient que c'était une scène, l'émotion là, était à son vif, à son apogée. Là. Beaucoup se souvient d'avoir vu des adultes pleurer. Elle se souvient que c'était une scène qui l'a marqué. Elle parle de 75 ans passés. Puis elle s'en souvient là, clairement. Là, capable de nommer monsieur un tel était là.
Parce que peu importe l'optimisme avec lequel tu étais porté durant la détention, il n'y a pas un moment que tu n'as pas pensé que tu reverrais jamais ta famille. Là. C'est important. Tu étais allé au bout du monde. Tu dis ça fait 30, 40 mois que tu étais détenu. Là. C'est sûr que même le plus optimiste, peut-être monsieur Ross, hein? Il lui a jamais abandonné, mais les hein? autres, ils doivent passer dans l'esprit à un moment donné. Disaient, hein? J'en reviens. Puis tu ne vas pas les écrire. Les prisonniers qui étaient en Allemagne de Dieppe ou de même du débarquement de Normandie, il y avait une façon quand même de communiquer avec la famille, de dire « je t'en vis ». Parce que là, au Japon, il devait avoir aucune forme de communication.
Ouais, il y en avait certains qui ont reçu à travers la Croix-Rouge, mais c'est certainement pas de façon aussi efficace que ce qui se produisait là, sur le continent européen. Même dans le cas de M. Doddridge, c'est zéro. Zéro communication. Il avait reçu aucune nouvelle de ce qui s'avait produit durant son... sa détention.
Ça, tu débarques à la maison, puis là, c'est trois ans et demi de rattrapage. Quatre ans, parce qu'ils avaient plus que ça.
Oui, c'est ça. Là, on est rendu à quatre ans. Là.
C'est ça, on était à quatre ans. Depuis la dernière permission, des deux semaines de permission avant le déplacement vers la côte ouest.
Exactement.
Que va-t-il advenir des gardiens de camp?
On peut parler d'un. Il y en a un qui vient, un gardien qui vient particulièrement, ou qui vient à l'esprit là, immédiatement, c'est Inoue. Son prénom m'échappe.
Kanao.
Kanao Inoue. Kanao Inoue avait un parcours assez particulier. Lui était d'origine japonaise, mais...
Natif du Canada.
C'est ça. Mais exactement. D'une famille canadienne, mais élevé à Kamloops, la région de Kamloops.
En Colombie-Britannique.
Qui avait été élevé, comme je disais là, ici au Canada, comme jeune adulte, avait retourné au Japon. Et puis s'est retrouvé à l'intérieur des rangs de l'armée japonaise. Le hasard a voulu qu'il s'est retrouvé à Hong Kong. Ben, le hasard. Je pense que peut-être son background canadien a joué là-dedans, dans la décision de l'envoyer à Hong Kong. Mais tout ça pour dire qu'il a œuvré, lui, le Kim Inoue, a servi comme garde-prison à Hong Kong, qui supervisait les prisonniers canadiens. Comme on pourrait dire là, dans le langage de tous les jours, Inoue avait une crotte sur le cœur par rapport à des sévices que lui avait souffert là, comme jeunesse, là, le racisme envers lui quand il était...
Encore britannique.
C'est ça. Il y avait des choses à régler là, dans son esprit avec les Canadiens. Donc c'était un garde qui était particulièrement brutal, particulièrement dur du côté psychologique puis du côté physique. Puis c'était un garde que les gens faisaient du mieux là, pour l'éviter. Mais lui a été particulièrement brutal jusqu'à un certain point que lui a été trouvé coupable de trahison.
Oui, parce
il
n'a
pas été trouvé coupable de crime de guerre. Il a été trouvé coupable de trahison.
Mais comme il était citoyen canadien,
exactement.
Le Japon ne pouvait pas le condamner. Mais puis le parce que c'est ce qui est arrivé. Là, il y a eu une condamnation du Japon à la peine de mort. Puis là, ouais, mais il n'est pas citoyen japonais. Mm. Donc c'est le Canada qui avait... Mais comme il avait collaboré avec l'ennemi de façon permanente, parce qu'après 43, il va... partir des camps, puis il va se retrouver à la police de Tokyo.
OK.
Où il va être dans le contre-espionnage.
OK.
Puis spécifiquement dans la torture des gens qui pensent faire de l'espionnage. Fait que c'est peut-être plus que son idée de vengeance contre les Canadiens, c'est peut-être plus un psychopathe latent, on va ouais. dire. Que de...
Ben, c'est ça. Puis ce ne sera pas le premier psychopathe à s'intégrer dans l'histoire militaire.
Parce que c'est, il est vraiment... Là, c'est ça, il est sorti en 1943, il retourne à Tokyo.
OK.
Puis il sert avec la police, là, mais il est affecté spécifiquement à la torture. Là. Il en fait comme un... Ouais. Passe-temps. On peut douter de son équilibre mental.
Oui, oui.
Et il décédera en 47 à la prison, justement.
De Stanley, à Hong Kong, non loin des événements du 25 décembre 1941. Il a été pendu. Et puis, comme M. Doddridge et bien des anciens combattants, des survivants des camps de prisonniers ont dit, j'ai pas versé de larmes quand j'ai reçu la nouvelle de la pendaison de Kamloops Kid.
Il y avait même un M. Miller qui...
David Miller.
Que tu as connu.
Ben, oui.
Parce que c'est ça, c'était un des plus vieux des gens qui ont été dans la détention. C'est un témoignage de M. Fabien Sinette qui me parlait de... Il y avait un autre vétéran que M. Sinette ne se souvenait malheureusement pas du nom, puis qui avait été témoigné contre les gardiens de camp. Puis il disait, j'ai réussi à en faire condamner deux.
OK.
Puis il dit, M. Miller, t'as comme... C'est une bonne journée. Là.
Ouais. Attaboy. Monsieur David Miller, c'est une histoire intéressante aussi. Lui, il s'est enrôlé, il avait 40 ans. Il est né en 1900. Père de 3 enfants, s'est enrôlé.
Manque d'argent ou limite financière? Ou...
C'est ça.
Parce qu'il peut pas être pas à l'âge où ce que tu fais comme je vais aller sauver le monde. C'est plus dans... c'est plus celui qui avait 15, 16, 17
ouais,
ans.
Oui, c'est
là,
ça.
Là.
C'est ça.
L'optimiste naïf.
Je pense que dans son cas, puis je veux pas parler pour lui, là, mais en ma possession, j'ai des enregistrements faits par le petit-fils de M. Miller, qui, à l'époque de l'enregistrement, avait 9 ou 10 ans. Là. C'était dans le cadre d'un travail scolaire. Il avait enregistré son grand-père, qui, au moment de l'enregistrement, avait 79-80 dans ces eaux-là, qui parlait de ses expériences à Hong Kong. C'était intéressant de voir, en termes de sa motivation, pourquoi il avait il s'était enrôlé. Il y avait, chez lui, un sens de... Il avait manqué la Première Guerre mondiale. Il est né en 1900, ce qui fait qu'il avait 18 ans lorsque la Première Guerre mondiale a fini. Puis il a toujours resté avec le sens, le sentiment que lorsque j'aurai ma chance, je vais y aller à mon tour. Hein. C'est intéressant de voir les différentes raisons qui motivent les gens à faire ça.
Comme s'il avait manqué quelque chose dans sa destinée ouais, d'aller en conflit. Mais il avait vu tous les jeunes qui étaient comme 2 ans plus vieux que lui... qui étaient ses amis, probablement, partir, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de Gaspés qui ont fait la Première Guerre mondiale. Là,
mais dans sa famille élargie, puis pas trop élargie, là, c'est le cousin. Daniel Miller est mort en Première Guerre mondiale à 70, sans sépulture connue. Là. Puis ça, Daniel Miller, un jeune qui avait commencé à construire une maison et tout le kit, là, avant la guerre, en tout cas. Mais c'est pas un scénario qui était unique au Miller. À l'époque, pratiquement toutes les familles avaient la sienne inclue. Là. On a tous notre histoire. Là.
Il y avait très
peu de... Ça a touché tout le monde.
Ouais, il y avait très peu de traditions militaires chez les Fournier depuis l'arrivée en Nouvelle-France. On parle de 1600. Hein? Puis il va y avoir 4 de mes arrière-grands-oncles qui vont faire la Première Guerre mondiale.
C'est ça fait partie de qui on est comme Gaspésien, le service militaire. C'est toute municipalité confondue, toute
langue,
tout groupe culturel, que ce soit anglophone, francophone, autochtone, tout le monde, si on se donne la peine de chercher un peu, là, on a tous un lien à ça.
Et après Montréal, c'est le retour à la vie civile pour nos prisonniers, avec un support probablement limité au niveau des... Un suivi psychologique limité pour des gens qui ont eu une détention de 44 mois.
Ben en fait, suivi psychologique, zéro. J'ai posé la question directement à M. Dollard. J'ai dit, y a quelqu'un à un moment donné qui vous a posé, ça va-tu? Ça file-tu? T'es-tu correct? Il dit, non. Il dit, jamais personne. Il dit, debriefing psychologique, rien de ça. Il dit, absolument pas. Zéro. C'est une autre époque, hein? Le retour à la vie civile a été plus difficile chez certains. Il y a eu quand même un très haut taux de suicide dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale.
Ah ouais?
Chez les vétérans de Hong Kong, il y a quand même beaucoup, là. Puis il y a eu beaucoup de problèmes d'abus d'alcool, ce genre de choses-là. Là. C'est certain que... Aujourd'hui, on parle en termes de syndrome du...
Post-traumatique.
Mais à cette époque-là, c'était...
Ça n'existait pas encore.
C'est ça. Là.
Ça existait beaucoup, mais personne n'avait levé le flag sur le...
Puis Monsieur Doddridge, je sais que j'en parle souvent, Monsieur Doddridge, mais ça se trouve à être ma référence. Puis mon chum, mon ami, lui me disait que dans son cas, lui, c'était... Je veux pas continuer à en parler. Il voulait passer à d'autres choses au plus vite. Puis dans son cas, lui, ça s'est manifesté par un retour aux études. Puis c'est ça, là, les gens avaient le droit à une allocation. Là. Je suis pas trop familier avec les fonctionnements de ça, là, mais ça marchait sur un système de points, là, dépendamment de combien d'années que tu avais servi, puis si tu avais vu du combat.
Okay, ou si t'étais stationné à un endroit.
Ouais,
ça.
C'est ça. Tu pouvais avoir de l'argent là, pour t'aider à faire l'achat d'une maison, quelque chose comme ça. Puis M. Doddridge, lui, cette allocation-là, il s'en est servi pour faire un retour aux études dans son cas, lui. Mais c'est certain que pour cette génération-là, parler des états d'âme, puis comment tu files, c'est pas quelque chose qui leur venait naturellement.
Oui, ça, dans la petite enfance, c'était pas comme favorisé. Parle-moi de tes émotions.
C'est ça, exactement. C'était, comme on dit...
T'étais le 12e enfant de la famille. Là. On avait peu de temps à allouer de façon ponctuelle sur un.
C'est ça. Exactement. Pour ces gens-là, parler des expériences à Hong Kong, parler des expériences au Japon, ça se résumait à quand ils se retrouvaient ensemble. De façon générale, ils n'en parlaient pas à leur famille. Encore, pour citer mon ami, M. Doddridge, pourquoi j'ai causé des tracas avec je veux dire comme dit, with those stories, avec ces histoires-là? Ceux qui ont vécu un petit peu plus longtemps, on dirait qu'il semble y avoir un pattern. Là. Quand ces gens-là sont rendus vers la 70, 75, 80, quand ils voyaient leur jour, là, la fin de leur jour là, dans s'en venir, se sont ouverts un peu plus là, par rapport à leurs expériences. Parce que c'est pas quelque chose qui est évident là, de discuter, d'aborder le sujet. Là. Pour moi, les circonstances étaient différentes. Là. De un, j'avais pas nécessairement de lien personnel auparavant. Et j'étais aussi quelqu'un qui écoutait. Parce que c'est facile de dire « Oh oui, grand-père, il parlait jamais de ses expériences. » Ouais, mais t'écoutais-tu quand grand-père parlait? Je dis pas que c'est le cas toujours, mais...
Non.
Mais c'est parce que ça prend deux pour communiquer. Oui, c'est ça. Ça nous laisse sans mots un peu. Là, parce
ouais,
que c'est beaucoup à digérer.
Oui, c'est... c'est parce que ça implique... Ça t'apporte vers une réflexion sur justement le sens. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ces gens-là, il y en a là-dedans qui ont vécu si vieux. Il y a M. Doddridge qui est encore vivant, qui a 98 ans. C'est-tu une détermination à compter l'histoire pour être sûr que ça se reproduise le moins possible ou c'est juste... J'ai vu vraiment peut-être le plus laid de l'humanité. Je vais essayer de trouver le plus beau dans les jours qui restent.
Ouais, c'est...
OK, c'est plus philosophique, là. On est moins...
Oui. Mais lui, c'est certain que lui, c'est quelqu'un qui a le sens du... sens du devoir très aigu. Je parlais tout à l'heure du musée militaire de la baie des Chaleurs. C'est lui le président fondateur de ça. Là, ouais, puis il a mis beaucoup de ses ressources personnelles là, en termes financiers et de temps. Là. Et puis il manque jamais une occasion là, quand il y a une cérémonie quelconque, malgré son âge avancé, il se sent obligé de représenter ses camarades. Là. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Hein. Jour du souvenir l'an passé, il commence à avoir des problèmes de mobilité, c'est tout à fait normal à 98 ans, mais il tenait à y être, puis là, il est en train de considérer d'aller à Ottawa pour le jour VJ Day. Pas sûr, en français, c'est le terme. En tout cas,
au Japon, ou c'est la victoire dans le Pacifique.
Oui, c'est le, au mois de août, je crois que c'est le 15, à l'entour du 15 août. Il va y avoir des cérémonies à Ottawa pour souligner le 75e anniversaire de ce qui est en fait sa libération à lui, puis il considère faire la visite. On est en train de planifier ça. Là. Juste une dernière réflexion par rapport à ça. Lorsqu'on discute avec un ancien combattant comme ça, en tout cas, dans mon cas personnel, là, je peux pas faire autrement qu'essayer de me demander, moi, si c'était moi dans cette situation-là, comment je réagirais? Surtout en termes d'ancien militaire moi-même, il y a certaines choses dans son histoire que je suis capable comprendre. Tu sais, je comprends la hiérarchie militaire, la discipline militaire, tout ça, là, certaines des traditions. Puis ce que je dis souvent à lui, c'est que aller jusqu'au baptême de feu, tout ce qui est arrivé, aller jusqu'au baptême de feu, j'ai pas de problème à m'imaginer dans ses pieds, dans ses bottines. Mais c'est à partir de là que ça... C'est à partir de là que ça déraille un peu, là, parce que dans le sens que je peux pas vraiment... À un moment donné, on parlait de ça, puis j'avais dit que... J'ai dit, ben, la bataille comme telle, C'est un peu aléatoire. Qui survit, qui décède, c'est, le hasard joue un très gros rôle là-dedans.
À moins que tu sois caché vraiment. Ouais,
c'est ça.
Puis d'habitude, l'histoire va te juger un peu pour ça.
Ouais, c'est ça. J'ai dit, la bataille comme telle, ben, OK, peut-être que je suis capable d'imaginer que j'aurais passé au travers. J'aime, en tout cas, j'aime. mon scénario à moi, là, c'est de même que ça se passe. Et puis, j'ai dit, mais par contre, j'ai dit, moi, je pense que ce qui m'aurait eu, là, c'est le temps comme prisonnier. Puis sa réponse à ça avait été... Moi, j'avais trouvé sa réponse intéressante. Il m'avait répondu, il dit, voyons, regarde. Voyons. Il dit, t'aurais été correct. Il dit, on s'aurait occupé de toi. Là. J'avais trouvé ça particulièrement intéressant comme réponse, dans le sens que, vraiment, que la leçon, la grande leçon pour lui, dans tout son parcours, c'était l'entraide. Sans l'entraide, ça fonctionne pas. Là.
L'esprit de corps.
C'est ça.
Puis, c'était la camaraderie qui naît.
Puis lui, c'était pas, il disait pas ça pour faire son paraître intelligent. On voyait là, c'est vraiment, c'est la façon, c'est ça qu'il croit là, dans le fin fond là, de ses.
Il n'avait rien prouvé. Il n'avait rien prouvé.
Il n'a plus rien prouvé, exactement.
Il l'a fait déjà.
C'est ça. Puis j'avais trouvé ça intéressant. Il dit, ouais, ben, il dit, voyons, on s'est occupé de toi. Là. Pareil comme je me suis occupé des autres. Là, on s'est tout.
C'est la force du nombre.
Ouais.
Pour passer à travers une épreuve qui était inhumaine. Il y a que l'idée de survivre à ça. Tu dis comment, de façon intrinsèque chez l'être humain, il y a une volonté de vivre le lendemain. Merci des millions de fois, Tom Eden, pour ta générosité, ton temps. C'était.
Pas de problème, monsieur Félix Fournier.
J'espère que nos auditeurs auront autant de plaisir à t'écouter que moi je l'ai eu durant la dernière heure.
Ben, je te remercie beaucoup pour l'opportunité.
C'est vraiment très apprécié.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Eden. À la réalisation, Émilie Gagné. Un merci particulier à l'ensemble des Gaspésiens du Royal Rifle of Canada et leurs familles pour les témoignages. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.